Je trouve particulièrement convaincant votre développement sur le caractère non démocratique des institutions non politiques en France. Et pour avoir, comme tout le monde, fréquenté l'école, je crois qu'on peut tout à fait s'accorder avec ce que vous dites. On fait souvent intervenir François Dubet à Liedat, qui pense à peu près la même chose que vous. Effectivement, ça explique bien des choses. Ça explique notamment le fait que quand on fait des enquêtes, on ne tombe pas vraiment sur une demande de participation. Il y a une offre, mais ça explique complètement ce que vous dites. Il y a une offre effectivement pléthorique, en tout cas sur le papier, mais la demande de participation n'est pas extraordinairement forte, même si, un peu comme pour les techniciens, une fois qu'on a participé à quelque chose où il y a vraiment du grain à moudre, on a envie d'y revenir. Je cite juste un travail qu'on est en train de faire avec Jacques Lévy, une enquête sur la notion de justice spatiale, où il y a une très forte demande effectivement de clarté des règles du jeu, mais il n'y a pas très peu de demande de la justice passe par la délibération, la participation de tous à l'aménagement, des choses comme ça. Enfin, ça apparaît vraiment en dernier rang, cette affaire-là. Alors moi j'avais juste une question, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Ma question, c'est vous avez parlé de la matière du débat, moi, c'est aussi la question de l'échelle à laquelle ça se situe. Parce que, je cite un exemple. J'ai suivi une concertation qui a eu lieu sur l'aménagement d'un quartier de gare, enfin, un espace public devant une gare. Et alors ça a été fait de manière assez intelligente, parce qu'il y a eu d'un côté, enfin intelligente, je ne sais pas, d'un côté une concertation qui s'est faite avec les riverains, et de l'autre une concertation qui s'est faite avec les usagers de la gare, qui ne sont pas riverains, qui sont en transit. Et c'est extrêmement intéressant de voir que le résultat de ce qui est produit est totalement contradictoire. Or, nous sommes tous à la fois tantôt riverains, tantôt usagers. Et c'est vrai que c'est assez commode pour nous, cette fragmentation de la politique, parce que ça nous permet d'être extrêmement rusés dans nos stratégies, puisque ce dont nous avons besoin, par exemple, en tant que usagers, nous pouvons le refuser en tant que riverains, par exemple. Donc, comment est-ce que ça peut se jouer dans des techniques de concertation, cette articulation, enfin, cette controverse de nous-mêmes, quoi, pour le coup?
Je suis entièrement d'accord avec vous sur les deux aspects. C'est un des aspects sur lesquels je suis passé. Je vous disais, il y a des difficultés intrinsèques à la participation qui sont liées notamment à l'échelle. Il est clair que ce que vous présentez est complètement récurrent. La configuration que vous présentez est complètement récurrente. Et effectivement, les dispositifs de concertation tendent à finalement ce que les riverains soient surreprésentés, un, parce que c'est plus facile de les faire venir, deux, parce que eux se mobilisent beaucoup plus facilement aussi que les usagers, donc ils sont plus faciles à identifier, hein, on fait un petit périmètre, là, et donc c'est assez facile. Notre-Dame-des-Landes, par exemple, est emblématique. Alors là, on a réduit le périmètre de manière artificielle au département, sous un prétexte politique fallacieux, mais l'intention était clairement stratégique, elle était politique, mais alors même que il y a des contribuables, il y a des usagers, mais il y a aussi les contribuables qui sont concernés. Hein. C'est la fameuse affaire, il y a bien longtemps, mais que je citais souvent comme exemple, de la RN13, vous savez, la deux fois quatre voies qui traverse Neuilly. Certains acteurs politiques et le Conseil général des Hauts-de-Seine défendaient vraiment le recouvrement, un projet de rénovation et surtout de recouvrement, parce qu'il y avait quand même des riverains, hein, qui subissaient les nuisances, qui étaient quelques centaines, quelques milliers. Un projet, plusieurs milliards d'euros, et donc auquel allaient effectivement devoir contribuer tous les citoyens d'Île-de-France, hein, en particulier, qui étaient un gros... Et bon, la question est de savoir comment finalement figurer l'intérêt et la parole de ces citoyens, alors même que dans les réunions du débat public qui avaient été organisées autour de la RN13, il n'y avait que des partisans du projet. Donc vous voyez, on peut subir ce type. Et à revers, par exemple, sur les mines à très haute tension, à tel point d'ailleurs que, vous savez, il y a un décret qui a exclu les lignes à très haute tension, les linéaires électriques, du débat public, hein, parce que sur les lignes à très haute tension, vous avez des gens qui sont à proximité, qui sont vent debout, hein, qui sont vent debout, et les utilisateurs potentiels, les bénéficiaires potentiels n'ont aucune raison d'aller dans le débat public. Donc c'est une affaire incroyablement compliquée, et vous avez raison que nous jouons sur cette triple identité, contribuable, usager, riverain, et puis même citoyen. C'est-à-dire que, dans l'absolu, on est assez d'accord, hein, pour qu'il y ait une éolienne, pour qu'en fait, on en vienne aux éoliennes, mais quand même, en face de chez moi, c'est quand même un vrai problème. Le NIMBY, hein, vous savez, ce fameux NIMBY, qui a été utilisé, instrumentalisé comme une arme de guerre massive, de dissuasion massive par les prétendus porteurs de l'intérêt général que sont les élus et l'administration, ce NIMBY, dire « not in my backyard », c'est-à-dire ce soupçon général d'individualisme, d'égoïsme qui porte sur les citoyens qui se mobilisent contre des projets, des infrastructures qui viennent perturber leur environnement. Ce NIMBY, il a quand même un fond de réalité. Vous voyez ce que je veux dire, ça, il part pas de rien. On voit bien quelles sont les motivations qui c'est vraiment un argument de disqualification, de stigmatisation, parce que ce qu'on observe dans les mobilisations, vous le savez, c'est qu'il n'y a jamais que des NIMBY. Et de toute façon, que quand il n'y a que des NIMBY, c'est-à-dire des gens qui disent, à l'image des résidents du 16e, ouais, quand même, un foyer de réfugiés, là, etc. Même ces gens-là, hein, donc ils sont un pur NIMBY, disent, ça va quand même, pour la nature, pour l'environnement, cet environnement préservé. Ils en viennent à invoquer une forme d'intérêt général supérieur, parce qu'ils ne peuvent pas se contenter du NIMBY. Et qui sommes-nous pour dire, finalement, c'est leur porte-monnaie, quoi, c'est la valeur de leur propriété qui compte, ou c'est la préservation du bois de Boulogne qui compte pour eux. Hein. Voilà, donc ils ne sont jamais complètement NIMBY, et donc, non mais bon voilà, mais vous avez raison, cette question d'échelle, elle est aussi problématique. Donc moi, ma solution, c'est quand même, non pas dissocier les deux concertations, mais d'inventer le dispositif qui permettra la représentation de ces différents intérêts, y compris si on fait de l'utopie démocratique à la tour, la représentation de ceux qui n'ont pas la parole, c'est-à-dire la représentation des non-humains. Vous voyez ce que je veux dire? Les dispositifs, vous savez ce que fait Bruno Latour avec son Parlement des choses? Il dit, les océans, ils sont jamais convoqués dans les assemblées, ils ont jamais de porte-parole. Alors évidemment, on va leur donner des porte-paroles humains, ou bon, voilà. Alors ça paraît complètement délirant, mais si on veut avancer dans notre démocratie, si on veut arrêter ce délire, hein, qui consiste aujourd'hui à construire d'une manière totalement insatisfaisante un prétendu intérêt général, on va peut-être devoir y venir.
Merci. RTE... non, vas-y, Pascal. Non, je vois pas, c'est Pascal, je vois rien. Oui,
allez-y. Oui, Pascal Bruno, la ville de Lyon. J'avais trois questions relativement courtes. La première, c'est que la démocratie participative est une fin ou un moyen, de votre point de vue, par rapport à l'action publique.
Ouais.
La deuxième question, est-ce que la démocratie n'est pas parfois contraire au développement, au progrès social?
Ouais.
Vous avez pris tout à l'heure l'exemple de la Suisse, avec les votations dont les résultats sont parfois pas forcément des résultats qui vont dans le sens de très grand progrès social pour l'humanité. Troisième question, c'est par ailleurs par rapport à l'organisation de la France, qui a la caractéristique d'avoir un très grand nombre de collectivités territoriales, de communes notamment, mais également l'empilement, c'est déjà le qualifier, une multiplication, une multiplicité de niveaux de collectivités. collectivité où le pouvoir n'est pas forcément là où les élus sont élus au suffrage universel de direct. Donc, notamment en matière d'aménagement, en matière de développement local, ce sont les EPCI, les intercommunalités qui jouent probablement le plus grand rôle et qui pour le moment ne sont pas encore élus au suffrage universel direct, alors que la concertation est souvent, quand il y en a, de la démocratie participative à l'initiative de maires qui n'ont pas forcément tant de moyens que ça pour peser sur les décisions, même lorsqu'ils s'appuient sur une démarche de démocratie participative.
Alors, le dernier point, ça je l'ai écrit, il y a un jeu de dupes là, où on continue à laisser croire que finalement la participation va compter, mais qu'elle s'exerce à l'échelle municipale où on décide finalement de plus grand chose. C'est vraiment, moi j'ai parlé, hein, c'est, il y a un jeu de dupes, hein, et finalement on entretient cette illusion que le pouvoir est encore un pouvoir municipal, mais d'un certain point de vue, j'arrive pas à savoir si les élus sont satisfaits parce que y a des manières, ça les autorise aussi à la défausse. Vous voyez ce que je veux dire, dire finalement, bon voilà, mais à la fin ça finit par lasser de dire finalement ça c'est pas moi qui m'en occupe, hein, c'est pas ma compétence, etc. Donc je peux pas vous répondre. Bon. Là, c'est le même jeu entre les élus nationaux et l'Europe qui a eu lieu pendant longtemps. Hein. C'est pas nous, c'est les autres. Bon, voilà. Donc et effectivement, le bon lieu de la participation, et justement quand on essaye d'intégrer une réflexion sur les usages, sur la mobilité, etc., c'est l'échelle intercommunale, c'est la métropolité. Et moi, je caresse un jour l'espoir que les conseils de développement arrivent suffisamment à s'émanciper de la tutelle de leurs EPCI pour être le lieu d'animation de cette concertation et de ces débats publics. Il y avait eu des velléités à un moment à Bordeaux où le conseil de développement s'était posé, comme ça, en disant nous allons faire du débat public, la concertation. Je trouve ça très bien. Bon, ça c'est un petit peu. Parce qu'évidemment, il y a toujours ça. Alors, oui, la Suisse. Alors évidemment, la Suisse est toujours, mais toujours envoyée, parce qu'en plus, j'ai le défaut d'être un partisan du référendum, et surtout, le référendum, non, moins, mais de l'initiative référendaire. Et on me dit toujours, regardez la Suisse, c'est l'enfer. Bon, moi, je regarde la France et je regarde la Suisse en termes de politique. J'ai pas le sentiment que la Suisse est globalement plus destructrice des libertés que la France, soit au final plus mal gouvernée que la France. Alors il y a les deux exemples emblématiques qui sont toujours cités, toujours. Les minarets, les fameux minarets, et la mobilité, la circulation. Un, les minarets, ok, bon, on a, je sais pas, autour du voile et des choses, on a des choses qui sont pas très éloignées de ça, hein, en France, hein, bonne démocratie représentative, respectueuse des libertés, et on s'achemine dans un cadre de démocratie représentative vers des solutions politiques, hein, à propos desquelles les Suisses vont pouvoir tirer gloire de leur propre situation. Ce qui va se passer là maintenant en termes de ce qui est en train de se passer en termes de réduction des libertés, puisque vous mettez le doigt sur les libertés fondamentales, et ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer, et c'est bon à toutes les échelles, n'est pas du tout le produit de la démocratie référendaire. C'est le produit de la démocratie représentative. Donc accuser la procédure de l'initiative. En fait, à partir de résultats qui, pour certains, ne vont pas dans votre sens, mais pour d'autres, peuvent être considérés comme des résultats qui vont dans le sens du progrès social. Il y a d'autres, et l'histoire du référendum suisse nous montre qu'il y a eu des acquis sociaux qui ont été produits par les initiatives référendaires. Moi, j'aimerais bien que dans notre pays, on puisse soumettre, même si on perd, on puisse soumettre au référendum le principe du revenu minimal universel, qui permettrait d'organiser un débat. Ça a été fait en Suisse. J'aimerais bien qu'en France, on puisse soumettre au référendum le principe de la limitation du salaire dans les entreprises, c'est-à-dire le plafond. Bon, ça a été fait en Suisse il y a quelques années. Alors évidemment, ils ont perdu, mais c'est pas la faute de la procédure. C'est pas le fait de la procédure. Faut pas avoir un langage normatif. C'est le fait du public. Donc, L'exemple suisse, honnêtement, et puis moi j'en viens dans la discussion où je me fâche très vite sur l'exemple suisse que je défends vraiment, en tant que citoyen, je préférerais 1 milliard de fois vivre en Suisse au regard des possibilités que m'offre la démocratie suisse, au regard de la qualité du débat politique en Suisse qu'en France. Donc ça, c'est quand même un critère assez fort. Alors, voilà. Deuxième...
Il y a un poste à l'EPFL, non ?
Hein ? Non, mais j'ai failli y aller en plus. Troisième, démocratie participative, fin ou moyen ? Les deux, en général. Hein, les deux, c'est absurde de penser, comme on le fait toujours en France, c'est soit ça, c'est les deux. C'est une fin, parce que c'est un droit, la participation. C'est un droit. C'est une valeur, c'est ce que je vous disais. Dans une démocratie, on doit avoir la possibilité de participer au processus de décision. Pour moi, c'est qu'une fin en soi et une valeur, parce que j'ai tendance à croire que plus de participation, j'ai tort peut-être, je peux être démenti par les faits, produira moins de justice sociale. Mais ça, c'est un présupposé. Et effectivement, c'est très fragile. C'est très fragile, c'est une position. Et peut-être qu'à certains moments, dans l'état actuel de décrépitude de nos valeurs démocratiques, dans l'état actuel de polarisation des représentations et, grosso modo, vous dire, dans une société qui n'est pas démocratique, apporter plus de démocratie constitue un risque très très fort. Et dans notre société qui n'est pas démocratique, qui l'est de moins en moins, avec des gens qui sont prêts, d'un certain point de vue, à enlever à d'autres des droits, je commence à regarder à deux fois à l'extension du domaine de la démocratie.
Bien. Qui est-ce qui veut se réfugier en Suisse? Oui.
Alors, moi, je ne veux pas me réfugier en Suisse du tout. Jérôme Dezobry, je travaille chez VNF, mais je vais vous parler de mon expérience précédente comme DGA aménagement, donc je cherche des transports à la voiture au département du Nord. C'est bien le Nord, ça vous parlera. Je pense qu'on a, donc on a souhaité, il y avait une forte volonté de démocratie participative par le nouveau président, qui était à l'époque Patrick Kanner, et donc j'ai envie de dire qu'on a, d'après ce que j'ai dit, on a à peu près coché ce qu'il fallait, donc une mission de démocratie participative, des moyens, ainsi de suite, un garant externe, tout ce qu'il fallait. Et on a fait, on a voulu mettre au débat un schéma de mobilité en démocratie participative. Et donc, on a fait des appuis des citoyens sur tout le territoire, etc. Tous les sujets étaient sur la table. On se disait, ça parle aux gens, parce que bon, y a quand même 100 000 personnes qui prennent nos cars tous les jours. On avait mis la tarification, est-ce qu'il faut du transport à la demande, est-ce qu'il faut changer le réseau de cars, est-ce qu'il faut, sur la voirie, changer la façon dont on les sale, ainsi de suite. Donc, tout était sur la table. On avait fait des réunions préparatoires avec les autorités, avec les intercos, tout ça, vraiment pour mobiliser tout le monde, flyers dans les bus et compagnie. Et on a eu un très grand succès dans nos ateliers citoyens. On a fait donc du nord au sud, donc de Dunkerque jusqu'à Avesnes-sur-Helpe. Enfin, moi j'ai fait les réunions à Avesnes-sur-Helpe en février, donc c'est formidable. Et on a eu un grand succès, puis on a eu maximum 700 personnes en tout, sur 2,5 millions d'habitants. D'accord. Donc on a continué. Donc, et finalement, on a délibéré un schéma de mobilité qu'on a appelé Mobilité Liberté 2030. Et le constat que j'en ai eu finalement, c'est que, et c'était un peu ma question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un périmètre, un domaine d'application de la démocratie participative ? Voilà. Parce qu'en fait, c'est quoi les constats deux ans après ? C'est que déjà, bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui est venu, parce que je pense que nos institutions, nos responsabilités, le fameux millefeuille, ainsi de suite, les gens ne savent pas ce qu'on fait finalement. Les cars, ils passent dans mon village, et c'est extrêmement structurant, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le car, le nord qui passe, ainsi de suite. Mais bon, c'est vrai que c'est le département qui fait, on ne sait pas qu'on peut agir là-dessus. Deuxièmement, c'est compliqué. Deuxièmement, on a mis en débat non pas un aménagement, non pas quelque chose, mais bien une politique publique. De A à Z, et le terme politique publique, dans chez les experts, elle parle, mais chez les citoyens, sans doute pas. Et troisièmement, après coup, et finalement, ça a sans doute décrédibilisé la démocratie participative, c'est que ben, finalement, tout ça a été remis au rancard, parce que changement de président, voilà, et donc finalement, ben, on a perdu notre temps. D'accord. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un domaine d'application de la démocratie participative qui, et si nous, acteurs de ce domaine, Est-ce qu'on ne ferait pas mieux parfois de se dire attention, avec nos bonnes intentions initiales, en cochant tous les facteurs clés de succès que vous nous avez cités, est-ce que finalement on ne risque pas de décrédibiliser à terme la démocratie participative?
Merci beaucoup. Je crois qu'on va prendre deux autres interventions. Il me semble qu'il y a Emmanuel et Thierry. Non? Alors Thierry.
Oui, c'est dans le même sens par rapport
à
de la CGT. Je suis assez interrogatif justement sur le fait que on aurait tendance à faire en sorte que la démocratie participative se supplée entre guillemets à d'autres formes d'organisation d'organisation de la démocratie qui existe aujourd'hui. Il a été évoqué le fait qu'il y avait un manque de démocratie, de citoyenneté à l'entreprise. On s'aperçoit aujourd'hui qu'effectivement on retrouve des schémas plus ou moins similaires ou qu'on organise des réunions de salariés sur des sujets qui préoccupent les institutions du personnel à leur place. Ma question, c'est enfin, deux sujets, c'était plus par rapport aux questions d'aménagement du territoire, c'est le conseil de développement. C'est-à-dire que il y a des conseils de développement dans lesquels sont présents différents acteurs, dont les organisations syndicales jusqu'à présent de manière organisée. Et on se retrouve aujourd'hui à ce que en fait, la notion de représentativité disparaisse. Je pense par exemple, vous avez évoqué Rennes tout à l'heure, alors que c'était donc un lieu, on va dire, de démocratie plus ou moins institutionnalisée, aujourd'hui est mis en place, aujourd'hui on enlève ces repères de représentativité pour ouvrir beaucoup plus largement, avec le risque effectivement que l'on puisse avoir des interventions de personnes sans pouvoir. Qui nous représentent peut-être pas forcément ce que j'appellerais moi des corps constitués. Et j'avais une question par rapport au Césaire, qui est lui aussi un lieu de démocratie, où on a aussi sont représentés tous les corps qui peuvent exister et sur lequel plane quand même un certain nombre d'incertitudes sur leur devenir. Et donc, c'est pour ça que je m'interroge, pourquoi est-ce qu'on opposerait la démocratie participative à des formes d'organisation démocratique qui peut-être doivent être renforcées plutôt que diminuées. Et je pense que la démocratie participative, elle peut avoir des chances de réussir à partir du moment qu'elle est un minimum organisée.
Sylvie.
Donc Sylvie Lelatte, commettant même de Dunkerque. Moi, je me posais une question concernant la... On a évoqué la question de la formation, surtout des élus et du personnel, on va dire, des agents des collectivités. Moi, je poserais la question de la formation des citoyens. Est-ce qu'on peut former le citoyen? Et je m'en référerai à une expérience que j'ai vécue dans les années 90, où j'ai travaillé avec Yves Caban dans l'état du CRA Periferia sur justement des questions à Fortaleza, sur les questions de formation du citoyen. Alors c'est vrai qu'on était dans un contexte complètement différent parce que le citoyen, en sortant de dictature, n'avait pas cette capacité à prendre la parole. Mais ce qui m'avait semblé intéressant, et d'ailleurs sur Dunkerque, on avait monté un certain nombre d'expériences avec Gilles Tavaux à l'époque, on se disait qu'avant de déclarer que le citoyen devait participer à la construction de la société, il fallait peut-être l'informer un minimum de voilà dans quel cadre il s'exprime. Ce que vous avez évoqué aussi, c'est sur quoi justement on l'interroge, à quel moment est-ce que c'est simplement de l'information, de la concertation, de la co-construction. Et j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui on néglige cet aspect-là et on va trop directement tout de suite dans les réunions publiques où on lui demande finalement un exercice qui n'est pas facile, et pour lesquels on a les mêmes difficultés, alors concernant aussi les agents. Je sais qu'aujourd'hui, je serais curieuse de savoir s'il y a des dispositifs d'évaluation, justement, des processus de participation. Je sais que, je pense qu'il y a Mulhouse et Paris qui se lancent dans la démarche, notamment avec la 27e région, pour certains, parce qu'on a besoin de capitaliser. Je crois qu'on est en train de se multiplient les processus de participation, mais j'avoue qu'on ne sait pas toujours bien ce que ça produit.
Bon, on va terminer, je pense, avec ces trois. Alors, il y a beaucoup de questions importantes. Alors, sur l'expérience du Conseil départemental du Nord, moi j'avais cru percevoir, je n'ai pas étudié en tant que tel, je n'y ai pas été associé, mais j'avais cru percevoir qu'il y avait une vraie volonté politique pendant et effectivement, ce que me disaient mes collègues qui regardaient, disaient, on va assez loin là dans la volonté d'institutionnaliser la participation. Ce que vous me dites à la fin, ça, d'un certain point de vue, ça m'inquiète. On a perdu notre temps parce qu'on n'a pas été réélu. C'est ça, on a perdu notre temps, ça veut dire, ça ne nous a pas permis de nous faire réélire.
Non, c'est pas
ça.
Dit.
Non, c'est pas du tout ça. Non, au contraire, parce que c'est pas vraiment la question que vous dites, c'est pour les citoyens, qu'est-ce qui reste aujourd'hui pour les citoyens de ça? Parce que, et puis même si nous, moi j'ai pas perdu mon temps du tout, les échanges ont été riches et tout, il n'y a pas de souci, mais finalement, ce schéma, il n'a pas été mis en œuvre, les tarifications n'ont pas changé, les cartes, c'est toujours la même, ils sont valides. C'est plutôt dans ce sens-là, dans l'évaluation. Ouais. Bon, je comprends mieux, alors, parce que là, je me suis dit, oui, ce qui est assez frappant, c'est que les expériences les plus innovantes, les plus enrichissantes pour les acteurs, parce que cette dimension d'enrichissement des acteurs, on sait que finalement, ce qu'on sait quand même, avec le recul et les travaux qu'on peut mener, c'est que pour les acteurs eux-mêmes, lorsque l'expérience est authentique, lorsque la participation est authentique, lorsqu'elle est menée de manière rigoureuse, il y a un enrichissement. Quand elle est bâclée, quand les gens se font humilier dans les dispositifs participatifs, à l'inverse, ça produit de la frustration. Donc, je ne pense pas que vous avez perdu votre temps au sens où l'expérience nous montre, les jurys citoyens, l'investissement pendant une certaine durée laisse des traces. Alors, il n'y a pas de conversion à l'action collective, ça n'arrive que très très peu, mais je pense que rien pour ça, ça vaut la peine. Les effets de transformation individuelle. Le problème, c'est un problème de densité finalement de ces expériences. Elles sont assez peu denses et évidemment pas suffisantes pour changer finalement les équilibres de notre société. Et effectivement, il y a encore des millions de personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de participer à des démarches un peu innovantes. Donc moi, je pense que vous n'avez pas perdu votre temps. Et bon, et l'autre question que vous posez, 700, 3 millions. Oui, c'est un fait. Mais si on cherche à retrouver les critères de la représentativité qui valent dans la démocratie représentative, dans la démocratie participative, alors à ce moment-là, c'est pas la peine. Ou on fait du référendum, on fait du sondage. Vous voyez ce que je veux dire? Si on cherche, il est clair que, contrairement à ce que disait monsieur, il ne s'agit pas de se débarrasser de la démocratie représentative. Personne, en tout cas, il y a certains qui caressent le désir, mais ils sont minoritaires, en tout cas pas moi. Je pense que ça n'est pas pensable, ça n'est pas souhaitable. Donc, très clairement, il y a nécessité de coexistence de ces deux éléments. Et j'avais une discussion très intéressante hier à CFDT. Effectivement, mon discours n'a pas été très bien reçu non plus. Très clairement, syndicat, démocratie participative, vraiment c'est l'horreur. J'ai été très 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 très, ça a été très intéressant. Et d'ailleurs très, très jubilatoire pour moi. J'adore ça. J'adore se mettre en colère. Mais non, simplement, ce qu'il faut que comprennent les représentants, c'est que ça ne marche plus. C'est-à-dire que, grosso modo, un représentant ne fonctionne que quand il y a une forme d'adhésion des représentés au fait d'être représenté par lui. Aujourd'hui, dans notre société, et ça vaut pour les syndicats, ça vaut même, ça ne marche plus. Et donc, ils ne tiennent pas compte de vous. Très clairement, c'est-à-dire que vous ne pesez plus. Vous existez, effectivement, mais vous ne pesez plus. Et ça, c'est un point capital, si on oublie ça, qu'on a une société tout entière qui ne croit plus à ses représentants, qui ne croit plus qu'ils sont légitimes à parler en votre nom. Il va quand même, à un moment, falloir faire une place à cette expression citoyenne qui se revendique. Alors évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Vous dites critères de représentativité. Oui, on arrive dans un monde beaucoup plus complexe, avec des légitimités beaucoup plus complexes, des types d'expression beaucoup plus complexes. Ça va être le bordel. Et il va peut-être même y avoir... Moi, je crois à la représentation. Je crois à la représentation, je pense qu'elle est indispensable en démocratie. J'en suis convaincu. Et qu'il y a un risque énorme à ce que la représentation soit totalement balayée, ce qui peut se passer. Tous les intermédiaires vont être balayés. Vous regardez Uber, vous regardez Booking.com, etc. Tous les intermédiaires ont été balayés par des plateformes qui directement vont puiser, entrent en contact directement avec les citoyens. L'enjeu, donc, pour que ça n'arrive pas, c'est que les représentants justifient leur rôle. C'est compliqué. Moi, quand je dis les conseils de développement, la seule façon de justifier votre existence, et a fortiori les CESR, eh ben, c'est de l'organiser, ce débat public, d'essayer, même si ça ne fonctionne pas, c'est d'essayer de ne pas rester assis en disant « je suis représentatif, je suis représentatif, je suis représentatif ». Ça ne fonctionne pas, même si vous avez été élu. Ça ne fonctionne même plus avec les politiques. Alors, a fortiori, ça ne fonctionne plus avec les instances représentatives. Donc c'est un peu dur ce que je dis. J'ai pas dit ça comme ça à la CFDT hier, mais bon, ils ont quand même bien compris où je souhaitais en venir. Je vous assure que ça n'aura pas plu du tout. Troisième, former les citoyens. Alors il y a deux, on peut envisager deux types de formations. Il y en a une, il y a les deux auxquelles je crois, qui sont impératives. Il y a l'éducation populaire. Grosso modo, nous portons le deuil de la fin de l'éducation populaire. Le problème, pourrons-nous retrouver la voie de l'éducation populaire dans une société totalement qui fonctionne aux antipodes des valeurs de l'éducation populaire. C'est une question majeure. Nuit debout pour moi, et ça va peut-être vous surprendre, mais pour moi, j'ai beaucoup travaillé sur Nuit debout, c'était l'éducation populaire d'aujourd'hui. C'était une forme d'éducation populaire. Hein. C'était ça finalement la valeur ajoutée de Nuit debout. Bon, l'éducation populaire, et puis dans tous les dispositifs de formation, alors là je suis tout à fait d'accord, si vous voulez associer des citoyens, il faut les former. Ça c'est la condition, sinon c'est pas possible. Donc dans tous les dispositifs de participation, il faut une formation, et maintenant j'en suis absolument convaincu.
Merci beaucoup.